Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Mon invité d'aujourd'hui est donc François-Régis Le Grier. Bonjour François-Régis.
Bonjour Benoît.
Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'articles et surtout de deux livres dont l'un vient à peine de paraître à l'occasion donc des 800 ans d'anniversaire du sacre de Saint-Louis. Qu'est-ce qui vous est apparu comme étant important de fêter, de commémorer avec cette date?
Alors ce livre est né d'une rencontre, puisque l'année dernière j'ai été sollicité pour prononcer une conférence sur Saint-Louis. Et en préparant ma conférence, je me suis rendu compte que l'année 2026 était le 800e anniversaire du sacre de Saint-Louis. Et il m'a semblé plus qu'intéressant, même important, de chercher à ma manière de commémorer dignement cet anniversaire en rappelant qui était Saint-Louis. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Saint-Louis n'est pas uniquement une personne très pieuse, mais une personne qui a vécu vraiment son devoir de chef d'État quasiment à la perfection. Et donc j'ai souhaité commémorer à ma manière cet anniversaire en rappelant qui était Saint-Louis, quels étaient les principes qui avaient guidé son action. Et ça m'a semblé d'autant plus important qu'il ne vous a pas échappé que nous vivons dans un monde troublé, où les appétits de puissance se déchaînent et où la notion de justice est de plus en plus battue en brèche. Et donc, à cet égard, Saint-Louis nous offre le modèle non seulement de ce que c'est qu'un roi chrétien, mais plus largement de ce que c'est qu'un chef d'État. Et j'ai vraiment souhaité faire en sorte que mon livre puisse également intéresser les personnes qui sont peu ou prou éloignées de la foi chrétienne.
Alors, non seulement, effectivement, nous fêtons ces 800 ans, mais les 730 ans également de sa canonisation en 2027. Alors, d'où Saint-Louis, quelle époque? Est-ce que vous pouvez déjà le resituer un peu dans le temps et dans l'espace?
Oui, alors Saint-Louis, c'est le Moyen-Âge, c'est le XIIIe siècle. Il naît en 1214, le 25 avril 1214. C'est le petit-fils de Philippe Auguste, que l'on connaît bien avec la bataille de Bouvines, qui aura lieu la même année, au mois de juillet. Donc Saint-Louis aura quelques mois à cette époque. C'est le fils de Louis VIII, dit le Lion, qui mourra...
Mais qui fut l'éphémère.
Qui fut très éphémère, qui va mourir prématurément de maladie en rentrant de la croisade contre les Albigeois. Et donc c'est le fils de Louis VIII et Blanche de Castille, voilà, qui jouera un rôle très important dans son éducation et ses premiers pas de roi et de chef d'État.
Il est né à Poissy.
Et il est né à Poissy, absolument.
Et il mourra à Tunis, enfin près de Tunis, à Carthage.
En 1270, voilà, le 25 août. Et il est né à Poissy. D'ailleurs, il aimait se faire appeler Louis de Poissy, puisque c'est là qu'il avait reçu le baptême. Les chroniqueurs rapportent que d'ailleurs il accordait presque plus d'importance finalement à cette grâce du baptême qu'au sacre en lui-même, puisque c'est vraiment ce baptême qui le faisait enfant de Dieu.
Alors vous écrivez que Saint-Louis fut l'archétype du roi chevalier, mais également du roi féodal soucieux de ses devoirs envers sa famille et ses vassaux, et enfin un roi profondément religieux, sans être clérical. Qu'est-ce qui vous semble devoir expliquer ce tour d'esprit, cette formation, cet exercice du pouvoir chez Saint-Louis?
Oui, alors c'est un peu souvent une banalité de dire que c'est une période de transition ou pas, mais il y a un peu de ça quand même chez Saint-Louis, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un roi féodal, dans la mesure où on le voit à plusieurs reprises, véritablement chargé, à la tête de ses chevaliers. On le voit à la bataille de Taillebourg contre les Anglais. On le voit plus tard lorsqu'il débarque lorsqu'il débat
devant
Damiette pendant la première croisade. Et donc, voilà, ça rappelle vraiment Philippe Auguste.
Il se jette à l'eau.
Et puis, il met sa vie vraiment en aventure de mort, comme on disait, donc en danger de mort. Et voilà. Et puis, il y a toutes les luttes féodales. La France est encore, à cette époque, une monarchie féodale qui cherche un peu à s'en extraire. Et Philippe Auguste a accompli des progrès très importants dans ce domaine, notamment en multipliant la superficie du domaine royal par quatre. Voilà. Mais c'est encore une époque féodale, et on aura l'occasion d'en reparler, notamment vis-à-vis de l'exercice de la justice. C'est très intéressant. C'est un roi féodal, et en même temps, on voit vraiment que le sens de l'État, le sens du bien commun, non seulement émerge, mais se concrétise véritablement dans la vie du pays. Et une grande affaire de Saint-Louis, de Louis IX, sera de tenir à distance les grandes puissances de son temps, que sont d'une part le Saint-Empire romain germanique, et aussi la papauté. Et c'est ça qui est très intéressant dans son règne, c'est que c'est un roi qui est très pieux. C'est un roi qui effectue de nombreuses donations pour les ordres religieux, mais qui défend bec et ongles ses intérêts vis-à-vis des évêques,
du pape et de l'empereur.
Et y compris vis-à-vis du pape lorsqu'il le faut.
L'empereur, alors, en l'occurrence, Frédéric de Hohenstaufen.
Absolument.
Voilà, Frédéric II, qui n'aura de cesse de tenter de réconcilier avec le pape, d'ailleurs.
Oui, alors Saint-Louis va essayer de réconcilier les deux grandes puissances de son temps sans grand succès. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès cette époque, la France s'affirme, pour reprendre un terme qu'on utilise souvent aujourd'hui et qui est malheureusement un peu galvaudé, mais s'affirme comme une puissance d'équilibre. Et c'est tellement vrai que lorsque l'empereur va être déposé par le pape, Concile de Lyon, l'empereur va proposer en fait la couronne impériale à Saint-Louis, qui va la refuser, enfin pour lui et pour son frère notamment. Voilà.
Enfin, vous dites l'empereur, c'est le pape qui propose la couronne.
C'est le pape qui propose la couronne impériale, absolument. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Oui, oui.
Et voilà. Alors, il est sacré en 1226.
Oui.
Hein, on disait, à l'époque, il n'a que 12 ans.
Il n'a que 12 ans, c'est un jeune garçon. Moi qui suis père également d'un garçon de 11 ans, j'imagine bien ce que ça, comment dire, un petit peu, voilà, ce que ça représente. Donc c'était vraiment un très jeune garçon. Il vient d'apprendre la mort de son père au château de Montpensier, hein, c'est dans le Massif central. Donc son père Louis VIII rentre de la croisade contre les Albigeois et va décéder de maladie, de dysenterie vraisemblablement.
Et donc c'est sa mère qui exerce le pouvoir.
Alors oui et non, enfin oui, mais avec des nuances qu'il est nécessaire d'apporter. Ce qui est intéressant, c'est que la monarchie est fragile, oui et non, mais on sent qu'il y a encore des fragilités, et le fait que ce soit un enfant et que sa mère soit espagnole fragilise un peu la monarchie. Et dans les dernières volontés de Louis VIII, il y a notamment le désir de faire sacrer au plus vite le jeune Louis IX, pour éviter toute contestation. Et Blanche de Castille va accomplir à la lettre les volontés de son défunt mari, puisque trois semaines après, donc le 29 novembre, donc Louis VIII décède le 8 novembre, et le 29 novembre, Saint-Louis est sacré roi de France à Reims, et il a été auparavant adoubé chevalier à Soissons. Et c'est intéressant, et les historiens signalent que cet adoubement n'est pas neutre, parce qu'en soi, il n'y a aucune raison de se précipiter et d'être adoubé chevalier avant d'être sacré roi. Ce n'était pas une condition, ce n'est pas un prérequis pour être sacré roi. Mais c'était une manière de proclamer un peu son émancipation et de montrer qu'il était apte à régner. Et le fait est que Blanche de Castille va exercer non pas la régence, comme on le dit de façon un peu abusive, mais la tutelle jusqu'à la majorité de son fils Louis, et elle va l'associer étroitement au pouvoir, y compris dans ses jeunes années, Et la transition va se faire vraiment en douceur, à tel point que on n'a pas de traces écrites de passation de consignes ou de façon très solennelle, Blanche de Castille aurait remis le pouvoir à son fils en disant bah, écoute, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le patron. Quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment
intéressant. Alors il commence par réconcilier Capétien et Plantagenet.
Oui, alors c'est une réconciliation qui se fait qui se fait quand même avec quelques bagarres, on va dire. C'est une réconciliation qui se fait avec quelques bagarres. Non, les premières grandes difficultés auxquelles Saint-Louis et sa mère sont confrontés, ce sont les barons, hein, les grands féodaux, qui voient d'un mauvais œil la tutelle de Blanche de Castille. Et donc, vous avez un certain nombre de rébellions en Bretagne et ailleurs.
Voilà. En Bourgogne.
Oui. Et donc Saint-Louis va être obligé de lancer un certain nombre
alliances entre féodaux.
Oui, un certain nombre de campagnes militaires pour amener ses parents à récipiscence. Et puis, il va falloir aussi effectivement aller combattre les Plantagenets et les Anglais. Ça sera la fameuse bataille de Taillebourg, et qui sera aussi suivie par un traité de paix avec le comte de Toulouse. Voilà. Il faut voir qu'à cette époque, notamment dans l'Ouest et le Sud-Ouest, les barons aussi, effectivement, entre le roi de France, le roi d'Angleterre, et donc les fidélités vont de l'un à l'autre, et notamment le comte de Toulouse a essayé de jouer la carte anglaise avant de se rendre compte que ce n'était pas une bonne carte, et il finit donc par signer un traité de paix avec Louis IX, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs de reprendre les armes quelques temps après, puis à nouveau de faire soumission. Je ne m'étends pas trop dans mon livre sur toute cette période, parce que bon, c'est un côté un peu répétitif, et on tombe dans l'histoire, mais c'est quand même assez intéressant. La leçon que j'en ai tirée, c'est que Saint-Louis a toujours été très modéré dans ses campagnes militaires contre ses barons. Il les a plus traités en enfants turbulents qu'en véritables adversaires, et toujours avec une main tendue pour se réconcilier et puis et faire la paix et faire l'unité du royaume. Et je crois que c'est vraiment c'est une belle leçon pour aujourd'hui, c'est que c'est cet exercice de la force qui est très mesuré, très contrôlé, et qui permet d'ouvrir des portes ensuite à la négociation. Alors, c'est bien souvent, on fait aujourd'hui bien souvent malheureusement l'inverse.
Vous écrivez, le saint roi n'a de cesse de lutter contre la triple manifestation du mal, si bien décrite par Vladimir Soloviev au XIXe siècle. Lorsqu'un homme attente à la vie d'un autre homme, lorsqu'une classe sociale en opprime une autre, lorsqu'une nation cherche à accaparer les richesses d'une autre nation. En politique étrangère, Louis fait de la France une puissance d'équilibre, oui, avant la lettre. Oui. Est-ce qu'à votre sens, ça résume un peu son action?
Oui, parce que Saint-Louis est profondément habité par l'idée de justice. Alors, ça peut sembler anachronique de prendre cette citation de Vladimir Soloviev, qui est un écrivain russe du 19e siècle. Mais j'ai trouvé qu'elle résumait parfaitement l'attitude du roi, qui n'aura de cesse de réprimer la violence privée, qui est encore endémique à cette époque-là.
Il n'aime pas le meurtre, mort de l'être humain.
La violence privée qui s'exerce, qui est un des fléaux de la féodalité du Moyen-Âge, qui a été déjà condamné par le concile de Charroux à la fin du Xe siècle. Donc il y a eu énormément d'efforts pour maîtriser cette violence, mais elle est encore très présente. Donc Louis IX va s'y attaquer.
Il met fin à l'ordalie, ce qu'on appelait l'ordalie.
Oui, il va mettre fin à ce qu'on appelle au jugement de Dieu, à l'ordalie. Voilà. Il va interdire ces règles, parce que c'est des règlements de compte, c'est ni plus ni moins, c'est ça, pour rétablir une véritable justice avec enquête, avec preuve, etc. Et il va faire extrêmement attention aussi aux différentes classes sociales et faire en sorte que les petits, les humbles, puissent avoir des conditions de vie décentes et surtout aient le droit à la même justice. Voilà. C'est très important.
Ça, c'est donc très important.
Vous aurez toute une série d'enquêtes, notamment dans différentes parties du royaume.
C'est au nom de la justice, justement.
Pour indemniser, notamment, les personnes victimes des abus de la croisade contre les Albigeois. Donc, vous avez des enquêteurs royaux qui vont aller dans un certain nombre de villes, Nîmes, Beaucaire, pour ne citer qu'elles, et réparer, sur preuve, évidemment, hein, les injustices qui auraient pu être commises. Et ce travail d'enquête est salué par les historiens et notamment par Jacques Le Goff, qui est un peu la,
oui.
Comment dire, l'historien de référence sur Saint-Louis. Voilà, que je cite abondamment.
Jacques Le Goff, effectivement.
Puisque je le cite abondamment, oui. Parce que il m'a semblé que c'était, que c'était un peu Jacques Le Goff qui avait le plus développé et approfondi véritablement l'histoire du roi Saint-Louis.
Alors, en se fondant sur les témoins de l'époque, je pense évidemment à Joinville,
oui.
À Saint-Pathus aussi,
oui.
Guillaume
oui,
de Saint-Pathus,
oui.
Qui fut un homme très important, enfin un clerc.
Oui, oui.
Très important.
Tout à fait, d'ailleurs.
Auprès de Marguerite de Provence, sa femme.
D'ailleurs, Jacques Le Goff consacre plusieurs chapitres à l'étude des sources et notamment à Joinville, et il est, il y accorde beaucoup de crédit. Il y accorde beaucoup de crédit parce que souvent la tendance c'est d'être un peu, dit oui mais c'est de la géographie, etc. etc.
Oui.
Et lui,
oui.
Il explique très clairement que non, Joinville, peut-être que oui, il a trouvé par moments des excès ou...
Ça n'est pas qu'un agiographe.
Mais non, ce n'est pas qu'un agiographe.
C'est un vrai historien.
Et voilà, et la fréquentation.
Un chroniqueur, comme on dit à
la fréquentation du roi et la façon de s'exprimer, surtout, montre une réelle sincérité. Parce que Joinville n'hésite pas à être critique vis-à-vis oui. de Louis IX et à parfois le prendre en défaut ou à souligner ses travers. Voilà.
Alors, on va évoquer quand même quelques-unes de ces grandes réformes. On en a déjà parlé à propos de l'Ordali, mais il faut également parler et évoquer ce qu'on a appelé la quarantaine le roi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu sur la quarantaine le roi, ce qu'on appelait la quarantaine le roi. Vous voyez pas, si c'était c'est les 40 jours qu'il préconise pour trouver une issue à un conflit.
Oui.
Dans tous les conflits.
Oui, oui, oui.
Qui opposent non seulement les êtres
oui.
humains entre
oui.
eux, mais
oui.
Un homme à l'État ou l'État vis-à-vis d'un homme. Et c'est une grande réforme parce que autrefois, disons que les choses se réglaient toujours avec une certaine brutalité et sans véritablement avoir recours à une société de droit. Et de justice.
Oui.
Donc, c'est une chose particulièrement importante qu'il commence par faire au début de son règne.
Oui, tout à fait. Mais Saint-Louis, bien sûr, exerce la justice. Enfin, dès le début de son règne, c'est de façon très, très visible. Mais c'est véritablement dans la deuxième partie, ou enfin même la troisième partie de son règne, que ces actions-là sont les plus visibles. J'ai surtout en mémoire ce qu'on appelle le dit d'Amiens. C'est vraiment intéressant
oui.
Et ça résonne profondément avec notre époque, si vous voulez.
Oui.
C'est le roi d'Angleterre qui est en conflit avec ses barons
oui.
anglais. Et les deux vont solliciter l'arbitrage de Saint-Louis pour savoir qui a la prééminence, etc. Et Saint-Louis va rendre cet arbitrage à Amiens en faveur du roi d'Angleterre, et son arbitrage sera finalement accepté par évidemment par le roi d'Angleterre, parce que ça lui est favorable, mais aussi par les barons. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui,
faire appel à
la République, être sollicité en arbitrage
oui.
Voilà, dans des conflits que vous connaissez bien.
Faire appel, ne sais plus, à quel chef d'État d'Europe pour effectivement régler une question française.
Donc, ça c'est vraiment, ça montre vraiment l'aura du roi de France, son désir de paix et surtout son impartialité, c'est-à-dire que les puissances de son temps avaient finalement confiance en son jugement.
Oui. Mais d'ailleurs, il ne le fera pas qu'avec le dit d'Amiens, enfin, il le fera également avec toutes ces guerres qui opposaient Marguerite II de Flandre avec ses fils, notamment.
Absolument.
Donc on peut parler de pacification, hein, d'un roi pacificateur qui peut constituer donc un modèle en ce sens-là, évidemment pour notre époque.
Ce qu'il faudrait souligner aussi, c'est la grande ordonnance, hein, de 1254, hein, qui reste un modèle du genre et qui vient véritablement réformer l'administration du royaume. Et nous parlions au début de la féodalité. Oui. Il faut faire, il faut bien se
il nous
mettre,
fait sortir un peu de ce...
se rappeler que à l'époque, donc l'autorité de Saint Louis et du roi est pleine et entière sur le domaine royal, mais elle n'est qu'indirecte sur les grands vassaux. Et donc, lorsque Saint Louis réforme la justice, puisque c'est encore par là qu'il nous les a le plus connus aujourd'hui, hein, par cette grande ordonnance de 1254,
oui.
Cette ordonnance s'applique prioritairement donc au domaine royal. Et c'est un peu par imitation ou capillarité, comme vous voulez, que les autres barons, et notamment son frère, viendront à l'appliquer dans leur propre, sur leur propre terre.
Et vous dites qu'on l'a appelée « charte des libertés françaises ».
Exactement. Et moi, s'il y avait trois points véritablement importants dans cette ordonnance qu'il est bon de connaître, hein, de se rappeler... Le premier point, c'est que la justice doit être la même pour tous. Et si je peux juste citer un extrait de
Bien
cette
sûr.
Ordonnance. Donc, nous, Louis, par la grâce de Dieu, roi de France, établissons que tous nos baillis, vicomtes, prévôts, maires et tous autres, en quelque affaire que ce soit et en quelque office que ce soit, fassent serment que tant qu'ils seront en office ou en fonction de baillis, ils rendront justice à chacun, sans exception, aux pauvres comme aux riches, à l'étranger comme aux familiers, qu'ils respecteront les us et coutumes qui sont bons et qui ont fait leur preuve. Donc, si vous voulez, si Saint-Louis prend la peine de préciser qu'il faut rendre justice aux pauvres comme aux riches, c'est que ça ne devait pas être si évident que ça à l'époque. Le deuxième point, c'est pas d'amende sans jugement. Donc voilà, c'est la condamnation donc, de l'ordalie, du jugement de Dieu, de la violence, pour expliquer que, ben oui, il y a enquête, recherche de preuves, jugement, et non seulement il y a jugement, mais on peut même faire appel. Voilà, si on conteste le jugement, donc c'est la notion d'appel nous vient entre autres de là. Et le troisième point qui est vraiment fondamental, c'est la loyauté de l'administration royale,
oui.
Et la lutte contre la corruption, qui était aussi un mal endémique à cette époque. Et donc, bon, je rentre pas dans le détail, mais c'est intéressant. Donc là, tout est bien précisé, la valeur des cadeaux, qu'est-ce qu'on peut recevoir ou ne pas recevoir, etc., etc. Donc, il y a un très gros effort pour que la justice ne reste pas un mot en l'air, mais descende au plus près des,
oui.
au plus près des gens.
D'ailleurs, ce voilà. qui est très intéressant, c'est que vous, au début de votre livre, vous rattachez ce souci de Saint-Louis aux promesses de son sacre, et je dirais même à la grâce de son sacre, puisque vous parlez d'écoulement, n'est-ce pas ? Et donc... Quand on parle d'écoulement, on veut dire qu'il tient cette autorité et cette vertu de son sacre même, puisqu'il le tient d'une certaine manière de l'onction de Reims, de l'onction divine.
Oui, et c'est un sujet qui parfois, sur lequel certains historiens passent peut-être un peu vite, ou n'en saisissent pas forcément toute la portée. Et sur cette partie, je me suis bien inspiré de Jean de Vigry, qui écrit vraiment des belles choses sur le sac, mais il n'est pas le seul. Et je crois que c'est effectivement très important de bien comprendre l'essence de ce sacre, d'où Saint-Louis tire son autorité, pour comprendre ensuite ses réalisations et son souci de justice. Et donc, le sacre, effectivement... Par le sacre, c'est le sacre qui donne la légitimité véritablement au roi de France. Le sacre, c'est cet écoulement effectivement de la grâce divine, c'est l'onction du sacre avec laquelle donc l'évêque fait un mélange donc de l'huile sainte, hein, du Saint-Crème, avec quelques gouttes donc de l'huile apportée par, selon la tradition, par une colombe lors du baptême de Clovis. Voilà. Et et c'est véritablement ce sacre, encore une fois, qui donne la légitimité au roi de France
et sa grande foi.
Il montre que l'autorité, son autorité n'est pas un pouvoir arbitraire, mais cette autorité lui est confiée par Dieu pour le bien commun de son peuple, quoi. Et je crois que Saint-Louis sera profondément habité par cette nécessité
par cette conscience
professionnelle
de voilà
part. Mais oui, par
de l'origine de
vivre
pouvoir.
De vivre véritablement le sacre et de ne pas de faire en sorte que ce ne soit pas une formule creuse ou banale.
Alors on peut dire que à travers cette grande ordonnance de décembre 1254, il ajoute une série de mesures concernant la moralité et évidemment ce que vous disiez, c'est-à-dire les officiers royaux, ce qu'on appelle les officiers royaux. Et parmi la moralité, il y a le problème du prêt à intérêt. Saint-Louis est quelqu'un qui s'oppose à l'usure,
oui.
Qui condamne l'usure.
Oui. Alors, si vous permettez, juste avant de parler de l'usure, je voudrais revenir un peu sur le sacre, puisqu'il y a deux... Il y a deux notions qui me semblent vraiment importantes. Par le sacre, le roi s'identifie véritablement au Christ roi. Et il y a deux notions qui véritablement ressortent, c'est la présence et l'exemplarité. Et de même que le Christ a été véritablement présent au milieu de ses apôtres, au milieu des foules, etc., on voit que dans tout le règne de Saint-Louis, il y a cette volonté d'être extrêmement présent. Donc Saint-Louis n'est pas un roi qui gouverne à la façon d'un mandarin dans son palais avec beaucoup de distance ou d'écart, etc. Mais c'est une proximité qui s'exerce pas uniquement avec son entourage proche, hein, ses conseillers, sa famille, etc. Et tous les témoignages montrent qu'il y a une proximité bienveillante avec eux. Mais cette présence, elle s'exerce aussi vis-à-vis du peuple. C'est un roi qui va visiter son royaume, notamment au retour de la croisade. Hein, au lieu de filer directement à Paris, il prend le temps d'aller dans plusieurs villes. C'est une proximité aussi avec les ordres religieux. C'est une proximité également avec son armée. Et là, on a des témoignages très émouvants de Saint-Louis, au milieu de ses soldats, et les aidant à relever les murailles, notamment des villes, des garnisons de Terre Sainte. Voilà, et cette proximité va même avec les morts, puisque Saint-Louis ira lui-même enterrer, avec ses chevaliers, mais donnant l'exemple, il ira lui-même enterrer des soldats, des chevaliers chrétiens tombés dans une embuscade en Terre Sainte. Et c'est lui qui va organiser le recueil des dépouilles, leur sépulture, etc. Voilà, et c'est à la fois une présence et à la fois aussi une exemplarité. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, il s'attache à être le plus exemplaire possible. Alors, Saint-Louis, encore une fois, n'est pas saint du jour au lendemain. Hein. Il y a tout un cheminement difficile. Hein. C'est quelqu'un qui est qui peut être assez colérique parfois. Voilà.
Qui ne manque pas de caractère.
Qui ne manque pas de caractère.
Oui, mais sa mère n'en manquait pas. Elle n'en manquait pas non plus, sa mère.
Qui est assez ardent.
Blanche de Castille était une sacrée femme.
Hein. Et donc, il y a des sujets qui suscitent parfois un certain énervement, une certaine colère.
Puisqu'on parle des femmes, d'ailleurs, rappelons que la grande ordonnance reprise en 1256 établit le droit des femmes sur leur héritage et leur dot. Parce que les femmes étaient considérées à l'époque comme des êtres faibles. Et il a estimé qu'il appartenait donc à la justice royale de les protéger. Et il refuse ainsi qu'une femme soit punie pour les fautes de son mari.
Oui.
Il faut quand même savoir qu'à l'époque,
Saint-Louis ne voulait pas que mari, quelqu'un qui était condamné pour hérésie, dont les biens étaient confisqués, il ne voulait pas que cette confiscation s'étende au bien de la femme, donc effectivement, oui, il y a une volonté aussi de préserver.
Parce qu'on en parle
ça,
pas
c'est
beaucoup
constant.
De ça.
Et on peut rattacher à ça le sujet de l'usure. Hein. c'est un sujet parfois, c'est un sujet complexe, oui et non, c'est un sujet débattu en tout cas. Tous les rois de France quasiment ont pris des mesures assez répressives contre l'usure. Et Saint-Louis s'inscrit clairement dans la démarche de Philippe Auguste, et pour lutter et réprimer contre l'usure.
Il est également à l'origine de la suppression de la torture.
Oui. Et alors pour finir avec l'usure, c'est les mesures répressives contre l'usure touchent les juifs qui pratiquent l'usure, mais également les lombards, les banquiers lombards qui seront expulsés du royaume. Alors, qui seront expulsés du royaume pour avoir porté. Enfin, pour respecter.
Alors Jacques Le Goff a beaucoup abordé cette question, oui. Évidemment, du rapport de Saint-Louis aux juifs, puisque on sait qu'il a inventé, malheureusement, cette pratique de la rouelle, c'est-à-dire le fait de porter un signe distinctif.
Ah, il ne l'a pas inventé.
C'est
une mesure qui était préconisée depuis très longtemps dans le 4e concile de Latran, si ma mémoire est bonne, qui n'avait jamais été véritablement appliquée. C'est effectivement un sujet délicat et j'ai trouvé que Jacques Le Goff le traitait avec beaucoup de précision. Parce qu'on peut être très vite caricatural, c'est-à-dire que dire ben voilà c'est antisémite, etc. C'est totalement anachronique. Il n'y a aucune notion d'antisémitisme lié à la race, etc.
Chez Saint-Louis.
De Saint-Louis ou des rois de France en général.
Et il y a un anti-judaïsme quand même qui.
Oui, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, les rois de France sont confrontés à la difficulté qui est la même en fait que l'on retrouve presque une loi sociologique, c'est-à-dire que une minorité qui vit très différemment de la majorité, les relations sont toujours un peu compliquées. Et donc, effectivement, c'est vrai des chrétiens en terre musulmane, c'est vrai d'autres minorités. Et donc, effectivement, et Jacques Le Goff le montre bien, il y a une alternance de protection, de mesures répressives qui révèle effectivement, sur le temps long, la difficulté en fait, à se positionner clairement vis-à-vis de ce sujet. Et donc, Saint-Louis ne fait pas vraiment exception à la règle sur ce sujet. Et les relations sont parfois, effectivement, les relations sont parfois compliquées. Il faut quand même noter qu'il n'y a pas de pogrom hein, sous le règne de Saint-Louis. Il hein. Y a eu un début qui a été vite arrêté, réprimé. Voilà.
Alors, rappelons que nous avons la joie de recevoir aujourd'hui notre ami François-Régis Le Grillet à l'occasion de la parution de son livre « Saint-Louis, modèle des chefs d'État chez Via Romana ». Et nous rappelons également que la radio ne vit que par ses auditeurs et qu'il convient donc de la soutenir et de l'encourager.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs et auditrices, nous reprenons donc le cours de notre émission et je vous propose d'aborder d'autres aspects de ce modèle de Saint-Louis, de ce modèle politique qu'est Saint-Louis. C'est non seulement d'ailleurs un modèle politique, mais on l'a compris, un modèle spirituel et on peut même dire humain, puisque Saint-Louis va être aussi l'homme de la Sorbonne.
Oui, absolument.
Avec Robert de Sorbonne, il va fonder la Sorbonne.
Oui.
Ça, on a tendance à l'oublier.
Oui, on l'oublie. Et pour être très honnête...
Avec Saint Thomas d'Aquin comme,
absolument.
Hein, comme alors, enseignant. Enfin, comme...
Pour être très honnête, il y a un certain nombre de sujets qu'on retrouve dans toutes les biographies, notamment les relations avec la Sorbonne, etc., qui parfois ont été tumultueuses, que je n'ai pas abordé ou alors de façon très allusive dans ce petit livre, parce que vous aurez noté que c'est un petit livre que j'ai voulu...
C'est un petit livre de 130 pages.
De 140 pages, que j'ai voulu accessible et facile à lire. Mais effectivement, Saint-Louis, ne néglige pas l'université, il va même plutôt, on pense qu'il va plutôt même jouer un rôle d'apaisement à un moment donné où les choses, les querelles s'enveniment entre le pouvoir royal et l'université. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est son approche, et son rôle vis-à-vis des villes et vis-à-vis des bourgeois. Et là, c'est assez nouveau. Alors, on peut pas dire que Saint-Louis a une politique monétaire économique au sens où on l'entend aujourd'hui, ça serait sans doute exagéré, Mais néanmoins, il ne se désintéresse pas de ces questions. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est assez près de ses sous, hein, Saint-Louis-Saint, les chroniqueurs le relèvent. Alors, il y a quelques anecdotes assez amusantes. C'est au début de son règne, il y a un litige entre l'évêque de Beauvais, les habitants de Beauvais, le maire de Beauvais. Donc le roi se déplace, avec sa mère, je crois. Enfin, la cour se déplace donc à Beauvais. Et la règle, c'est que quand vous accueillez le roi et sa cour, c'est vous qui payez, quoi. Donc l'affaire est réglée, la cour rentre à Paris et envoie la note.
Oui.
Une fois, deux fois, trois fois.
Ça nous rappelle quelques aventures.
Ouais, la note, quand la note n'est toujours pas payée, eh bien, c'est assez simple. En fait, le pouvoir royal fait saisir les biens de l'évêque qui n'a
pas
réglé. Ah
oui, carrément.
Oui,
ah ben.
Voilà. Et des exemples comme ça, on en a un certain nombre. Joinville, en Terre Sainte, vient le voir en lui disant bah, écoutez, c'est bien votre croisade, mais moi, j'ai plus un rond. Si vous voulez que je reste, il faut me payer, quoi. Bon, et Saint-Louis va le payer, mais va lui compter...
Un intérêt.
Payer, non, pas un intérêt, non, justement, pas un intérêt. Mais il va lui compter ce qu'il lui doit, mais
ah,
pas...
Oui, d'accord.
Mais sans extra, quoi, voilà. Sans extra particulier. Non, c'est quelqu'un qui compte, qui est très attentif à la bonne administration du royaume. La croisade, ce qu'on appelle aujourd'hui la septième croisade, mais c'est un peu la première pour Saint-Louis... en est un exemple. Elle est très bien préparée sur le plan logistique, matériel, financier, etc. Même si
on
appelait
le pèlerinage d'outre-mer. Voilà.
Et Saint-Louis fait très attention à ces villes. On les appelle les bonnes villes. Alors, c'est pas parce qu'elles sont particulièrement bonnes, mais c'est parce qu'elles présentent un intérêt important pour le pouvoir royal. Il associe les bourgeois également à la rédaction d'un certain nombre d'ordonnances. Et notamment pour la monnaie, c'est lui qui rétablit la frappe en or qui avait été abandonnée depuis plusieurs
siècles. Et puis surtout, il y a une monnaie nationale.
Oui. Et alors,
surtout
il y a une monnaie nationale. La monnaie nationale, la monnaie royale.
Avec le gros tournoi.
La monnaie royale circule évidemment dans tout le royaume. Ceux qui n'usent plus de leur droit de frapper monnaie depuis un certain temps, le droit leur est retiré. Et quant aux autres, évidemment, ils ont interdiction d'imiter la monnaie royale. Et l'usage de leur monnaie locale est strictement réservé à leur fief. Alors, donc il y a quand même un embryon, on peut dire, de politique financière et économique aussi pour promouvoir le rôle des villes. Alors, j'ai oublié de le dire, on parlait de justice, etc. Mais c'est aussi, Saint-Louis poursuit aussi la politique d'affranchissement des serfs qui avait déjà été initiée par ses prédécesseurs.
Juste un mot sur les œuvres de charité de Saint-Louis, la création d'hospices. Il faut jamais oublier que c'est Saint-Louis qui va créer l'hôpital des 15-20.
Absolument, oui.
Dans le but de recueillir les aveugles miséreux de Paris.
Oui. Il y a un certain nombre d'hôtels-dieux aussi qui seront construits sous le règne de Saint-Louis. Là, on peut dire que là, effectivement, les pauvres et les malades... Sont véritablement au cœur, non seulement à titre personnel, mais aussi de la politique, sociale, comme on pourrait dire aujourd'hui, de Saint-Louis, en faisant en sorte que, voilà, que ces gens-là soient soignés gratuitement. Saint-Louis est aussi veille à ce que les orphelins des chevaliers morts en croisade soient pris en compte par l'État. C'est un peu les pupilles de l'État, en quelque sorte.
Les pupilles de la nation.
Les pupilles de la nation, absolument.
Alors, avant qu'on aborde la question de la croisade, est-ce que vous voulez ajouter quelques mots sur ce qu'il a pu bâtir ? Parce que Saint-Louis est un roi bâtisseur, architecte.
Oui, le plus emblématique, c'est bien sûr la Sainte-Chapelle.
Oui.
C'est la Sainte-Chapelle qui est destinée à accueillir la couronne d'épines. Et...
La couronne d'épines qu'il achètera à grands frais.
Qu'il va acheter à grands frais, absolument. Et ce qui est très intéressant, en fait, on a du mal aujourd'hui à se rendre compte de l'importance que pouvaient avoir les reliques à cette époque, et notamment la couronne d'épines. Alors, j'ai pris une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, c'est celle des Jeux Olympiques. Voilà. Vous imaginez la ferveur que suscite chez un peuple qui accueille les Jeux Olympiques que suscite le déroulement de ces jeux. On l'a vu en France, on le voit en Italie en ce moment. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà. Eh bien, il faut bien se mettre dans l'esprit qu'à l'époque, cette ferveur ne se se reportait pas sur des jeux, mais sur, entre autres, sur le comment dire, sur les reliques. Donc il y a plusieurs. Je crois que à Paris, on perd un moment un clou de la Sainte Croix. C'est un drame national. Alors, c'est un drame national. Alors le clou finit par être retrouvé, mais c'était quelque chose d'assez incroyable. Et effectivement, Saint-Louis va racheter la couronne d'épines. Elle va être accueillie en grande pompe à Villeneuve-sur-Yonne, ramenée en bateau jusqu'à Paris. Et puis il fait construire cet écrin merveilleux qu'est la Sainte-Chapelle. Voilà. Alors là aussi, c'est amusant parce que certains historiens disent oui, mais c'est calculé. C'est parce que ça contribue au prestige royal, etc. Alors, effectivement, ça contribue au prestige royal, mais je crois que c'est la conséquence et non pas le but recherché. Je ne crois pas que Saint-Louis avait des arrière-pensées en achetant cette couronne d'épines. Je crois que c'est véritablement sa foi et sa vénération pour le Christ qui le porte à ça. Et bien évidemment, ça contribue au prestige royal et à renforcer ce lien tout particulier entre la monarchie française et l'Église. Et c'est un lien très particulier parce que, à la différence d'un certain nombre d'autres monarchies de l'époque, qui sont tout aussi chrétiennes que celles de la France, la monarchie capétienne sort renforcée de cette alliance et n'est pas sous la tutelle de l'Église. Je donnerai juste deux exemples. C'est le roi d'Angleterre avec Jean sans Terre qui est menacé lui aussi de déposition et qui est obligé de, quelque part, en raison de son comportement très agressif vis-à-vis des évêques, etc., voilà, et injuste, qui est obligé de faire machine arrière. Vous avez aussi le roi du Portugal qui va être déposé par le pape. Donc, vous aviez à l'époque un lien de vassalité entre certaines monarchies européennes et la papauté. Et c'est totalement différent pour la monarchie capétienne qui d'emblée a su marquer la frontière entre l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle. Et tous les rois de France, quasiment sans exception, défendront cette autorité temporelle. Et Saint-Louis la défend d'autant mieux qu'il est irréprochable sur le plan moral, sur la piété, sur les bonnes œuvres, ce qui lui donne évidemment une aura et puis une grande liberté pour dire non quand il faut et dire à certains évêques, écoutez, là vous me demandez de... Parce que certains évêques se plaignaient, par exemple, que les excommunications ne soient pas suivies de la saisie des biens temporels quand c'était quand même un peu la coutume à l'époque. Voilà, et donc il disait au roi de France, notre excommunication perd beaucoup de sa valeur, si vous voulez, lorsqu'elle n'est pas suivie d'effets matériels. Et le roi de France leur dit non, mais oui, mais non, quoi. En fait, vous me demandez ça, mais au nom de quoi devrais-je le faire? Expliquez-moi d'abord le motif de l'excommunication. Les évêques répondent oh là là, secret professionnel, on ne peut pas. Et ça lui dit, ben non, mais je ne saisirai pas les biens de l'impétrant tant que vous ne m'aurez pas expliqué qu'il n'y aura pas une raison valable.
D'autant voilà, que...
Donc ça, c'est vraiment important de le souligner parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait en tête l'image d'un roi bigot, pieux, confit en dévotion. Il était très pieux.
Ah,
hein,
bah oui.
Il passait un nombre d'heures en prière incroyable. Il assistait à la messe tous les jours, voire parfois deux fois par jour. Mais il ne faudrait pas en conclure que c'était un roi, comment dire, qui disait amène à tout ce que lui demandait l'Église. Bien au contraire.
Mais il y a surtout le fait qu'il il expliquait avec un peu d'ironie qu'il ne voulait pas tirer les conclusions des excommunications trop vite, qu'il se donnait le temps, là aussi, parce que c'était susceptible, en appel, d'être annulé et que par conséquent, si on confisquait les biens, etc., ça causait un dommage à la personne absolument énorme.
Oui.
Donc il y a aussi cette prévenance. C'est quand je parlais des 40.
Il y a la présomption d'innocence.
Voilà.
C'est la présomption d'innocence dont on parle beaucoup aujourd'hui.
Oui.
Mais la présomption d'innocence, Saint-Louis va faire énormément pour l'instaurer et faire en sorte qu'elle rentre véritablement dans le droit. Et effectivement, éviter de condamner injustement des personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, en plus, il est servi par une mémoire qui semble infaillible. Donc, il a beaucoup de réparties et il envoie, comment dire, que ce soit les évêques ou les barons viennent le solliciter, il est capable de leur rappeler des faits ou des requêtes qui ont eu lieu des années avant. Parfois, parce que le règne de Saint-Louis, on ne l'a pas dit, mais dure 44 ans.
Oui,
c'est inimaginable aujourd'hui.
Hein.
C'est un très long règne. Et donc, il a la mémoire de son règne et donc il est capable d'envoyer, pardonnez-moi l'expression, dans leur but, les requérants, qu'ils soient évêques ou barons, lorsqu'il estime que c'est contraire à la justice. Et on en a un exemple très, très marquant avec l'affaire d'Enguerrand-Coucy, que nos auditeurs connaissent peut-être, qui est très illustrative du souci de justice de Saint-Louis, notamment de faire en sorte que la justice s'exerce aussi avec les puissants, parce que c'est bien facile de promouvoir la justice, mais quand on voit les puissants qui échappent, on se dit que y a justice et justice. Et donc, clairement, Saint-Louis fait un exemple avec Enguerrand-Coucy. Alors, en deux mots, l'affaire, vous avez trois jeunes nobles qui sont surpris en train de braconner sur les terres du seigneur d'Enguerrand de Coucy. Les trois jeunes sont pendus, sans autre forme de procès. Voilà. Donc, apprenant l'affaire, Saint-Louis fait mettre en prison le seigneur de Coucy. Alors là, c'est le drame chez les grands barons. C'est inimaginable. C'est inimaginable de voir un grand baron finir dans la forteresse du Louvre comme un vulgaire criminel. Et donc, tous les pairs, tous les grands féodaux, enfin tous, une bonne partie en tout cas, va faire pression sur le roi pour faire libérer Enguerrand-Coucy et dire bah oui, non, mais en fait, il est maître chez lui, il fait ce qu'il veut, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc., etc. Et Saint-Louis va pas comment dire,
revenir
renoncer,
sur
il
la
va pas
décision.
revenir. Et Enguerrand-Coucy échappe de peu à la mort, mais il est condamné très lourdement, à plusieurs, je détaille les peines dans mon livre, mais voilà, il est condamné très, très, très lourdement. Il se voit retirer son droit de haute et basse justice, enfin bref. Et c'est un exemple qui va évidemment marquer les gens. Alors on peut penser qu'il a voulu faire un exemple et montrer qu'il n'y avait pas d'exception à la justice. Son frère d'ailleurs en fera les frais. Alors Saint-Louis ne va pas le traîner en justice comme on peut l'imaginer, mais il va faire pression pour que son frère répare les injustices qu'il a commises envers différentes personnes. Ce sont des gens qui sont emprisonnés sans aucun motif, ce sont des biens qui ont été saisis sans aucun motif, etc.
Alors, évoquons maintenant l'héritage de Saint-Louis à propos des croisades. Enfin, est-ce que vous voulez nous... Parce qu'il est parti, donc il s'est croisé, comme on dit, deux fois.
Oui.
Une première fois, où ça s'est plutôt mal terminé, puisqu'il est revenu en estimant que son échec était dû au manque de sainteté de son royaume, ce qui est une cause assez étonnante
Oui.
à évoquer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de
Oui,
ces
moi, ce que j'ai
deux
vraiment voulu
croisades assez
montrer,
rapidement?
oui, ce que j'ai vraiment voulu montrer dans mon livre, c'est que Saint-Louis, à la différence de certains Capétiens, n'est pas uniquement un roi habité par le souci des intérêts matériels et, on dirait aujourd'hui, l'égoïsme national. Et je prends comme exemple, si vous voulez, un slogan comme America First, par
Le
exemple,
nationalisme.
voilà, serait totalement étranger à Saint-Louis. Il a parfaitement conscience qu'il faut défendre les intérêts légitimes de son royaume, mais il a aussi conscience, comment dire, d'un bien supérieur
Oui.
qui est celui, à l'époque, d'une entité géopolitique qui s'appelle la chrétienté, dont les contours ne sont pas forcément très bien définis, mais enfin, on voit à peu près quand même ce que ça représente. C'est le Saint-Empire, c'est l'Italie, c'est la France, évidemment, c'est l'Angleterre, l'Espagne qui est en train d'être reconquise, et puis ce sont les territoires en Terre Sainte. Et dont Saint-Louis estime qu'ils font. Enfin, voilà, pour lui, c'est un sujet de politique internationale et il a des obligations vis-à-vis de la chrétienté, comme aujourd'hui nous avons, nous, la France, des obligations bien, vis-à-vis de nos partenaires européens ou d'autres, l'ONU, etc., etc. Voilà, c'est exactement le même schéma de pensée, si vous voulez. Et donc, Saint-Louis est bien sûr habité par la croisade d'un point de vue religieux, puisque c'est le tombeau du Christ, etc. Et aussi, d'un point de vue politique, ça correspond à ses obligations internationales de l'époque. Et donc, il va effectivement se lancer dans deux croisades. La première qui va durer de 1248 à 1254, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est remarquablement bien préparée sur un plan logistique, matériel, financier. On ne peut pas dire qu'elle soit très bien conduite et on ne peut pas dire que Saint-Louis soit un stratège, c'est pas Napoléon, voilà, très clairement. Voilà, donc Damiette est un succès, la prise de Damiette est un succès, mais après, il y a la défaite de Mansoura, le roi est fait prisonnier, puis il est libéré contre rançon, va aller 3 ans en Terre Sainte, et là, il va remettre en état les fortifications des différentes villes de Terre Sainte, il va jouer le rôle de roi sans en avoir le titre, il va apaiser notamment les dissensions entre barons, les dissensions entre les barons et les ordres religieux.
Oui, parce que même les ordres religieux entre eux se font la guerre. Les Templiers et les Hospitaliers sont en conflit.
Donc cette croisade ne fait que retarder, si vous voulez, en fait, quelque part, l'échéance finale. Hein, voilà. Et Saint-Louis, effectivement, revient en France. Et toute cette période, une quinzaine d'années, effectivement, presque 20 ans, hein, où consacré vraiment à la paix, à la justice, c'est la grande ordonnance dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est le dit d'Amiens, notamment. Et avant 1270, Saint-Louis, à nouveau, fait part de sa volonté de se croiser. C'est un choc, hein, c'est véritablement une surprise. Hein.
Oui.
Même le pape est assez perplexe vis-à-vis de ça. Et puis le choix de la destination aussi fait débat. Pourquoi le roi est allé à Tunis?
Oui.
Alors, n'étant pas historien de métier, je me borne à énumérer les différentes hypothèses que les uns et les autres ont pu admettre en y apportant mon regard un peu critique. On a dit que Saint-Louis, on ne connaissait pas bien à l'époque la côte méditerranéenne et qu'on pensait que Tunis était plus près de la Terre Sainte. Je n'y crois pas un instant. La Méditerranée est connue depuis l'Empire romain, voilà, etc. Donc ça me paraît un peu farfelu. On a expliqué, ce qui est peut-être plus plausible, que c'était son frère, le roi de Sicile, qui avait voulu lui suggérer Tunis en laissant espérer une conversion du roi de Tunis.
C'est ce qu'on disait.
Pourquoi pas, mais moi je ne suis pas convaincu. Mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. On sent qu'avec cette deuxième croisade, Saint-Louis laisse un royaume entièrement pacifié. Il n'y a plus de problèmes intérieurs ou extérieurs. Et donc, il se sent l'esprit libre.
C'est une sorte de sacrifice un peu.
C'est une sorte de sacrifice. Et il faut y voir vraiment une dimension plus spirituelle que politique. Et moi, je voudrais en venir par là, c'est que véritablement, c'est cette piété qui a véritablement irrigué le règne de Saint-Louis. Saint-Louis va la vivre pleinement dans sa mort. Et il y a un parallèle presque saisissant avec la mort de Saint-François d'Assise, parce qu'on y retrouve le même amour des psaumes, par exemple.
Oui.
François d'Assise meurt en récitant les psaumes. Saint-Louis va mourir aussi en récitant les psaumes. François d'Assise meurt à même le sol, hein, il est nu, couché sur la terre. Louis IX est couché sur un lit de cendres devant Tunis. Et puis, c'est les derniers enseignements qui sont très émouvants que Saint-Louis donne à ses enfants et qui rappellent ceux de Saint-François d'Assise à ses moines.
Merci beaucoup, François-Régis Le Gris. Alors, je sais que vous devez dédicacer samedi 21 mars au comptoir des monastères. Bien au comptoir des monastères, rue Galande, 33 rue Galande, dans le 5e, de 15h à 18h.
15h à 18h.
14h à 18h.
Je vous attends avec impatience.
Merci beaucoup. Il a donc été question de votre livre et du 800e anniversaire donc du sacre de Saint-Louis. Votre livre intitulé Saint-Louis, modèle des chefs d'État, aux éditions Via Romana. Et vous aviez signé auparavant un livre.
Si tu veux la paix, prépare la guerre, un essai sur la guerre juste qui est plus que jamais d'actualité.
Merci beaucoup.
venez d'entendre Au fil des pages, dirigée par Benoît Mancheron, émission préenregistrée le 16 mars 2026 et diffusée pour la première fois mercredi 18 mars 2026 de 10h à 11h, et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.